mais c'est vrai. Et là, on a fait.
C'est vrai.
Pendant ces deux semestres là, à Columbia.
Oui, ils essaient de faire prendre conscience aux femmes de le.
Jeune de course. T'expliques.
Bruno connaît ça très bien, hein, quand on parle. Et donc ça, c'est un aspect qui est important dans le Da Vinci Code. Et en France, je pense que d'autres aspects ont joué, et notamment lié au fait que le roman se passe
partie à Paris, oui. C'est qu'il donne vraiment des détails très réels et des endroits qu'on peut voir, qu'on connaît.
Par que bon, les 626 dalles, c'est faux.
Mais il y a pas mal de détails qui sont faux, je crois, dans mon petit. En fait, il y a pas mal de choses qui sont vraies, mais il y a plein de choses qui sont fausses. Il mélange les deux.
C'est un roman, au départ, c'est un roman. Donc un romancier a le droit de faire ce qu'il veut.
Ah oui, non,
simplement,
sauf quand il indique au début de son livre que toutes les descriptions de monuments et d'art.
Ça pourrait faire partie du roman, parce que des romans dans lesquels il y a des notes de bas de page qui expliquent que c'est aussi une tradition littéraire.
Oui, mais là, il.
Oui, mais ça pourrait.
Ce qui est. Dans le prologue, le prologue est dans le roman.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que.
Oui, mais
ça, c'est la. La frontière entre le roman et l'essai, c'est pas toujours très facile. Ce qui est aussi amusant, c'est que quand il donne des interviews, il dit lui-même qu'il semble convaincu de ce qu'il dit. Donc la question, c'est, on se dit, alors, où le roman s'arrête? Est-ce que l'auteur qui l'invente est aussi un personnage du roman? Vous voyez, c'est ça le truc.
Vous dites qu'il joue pendant les interviews à celui qui
sort? En partie, c'est possible. Quand un romancier utilise un pseudonyme, il crée un personnage. Mm-hmm. Il crée l'auteur. Non, c'est pas, il n'y a pas de pseudonyme. Je pense pas, non. Mais ce cas-là pourrait être, on pourrait se poser la question, quoi. Donc, jusqu'où s'étend le roman? Aujourd'hui, on a c'est toujours pareil dans beaucoup de romans qui paraissent. On s'intéresse toujours à la part de réalité que l'auteur y a mis dedans. Jusqu'à quel point c'est autobiographique, des trucs comme ça. Ça arrive souvent.
Oui, ça arrive souvent, mais c'est excessif tout de même.
Oui, mais il y a quand même souvent cette envie, dans un roman à succès, de se dire qu'est-ce que ça va nous apprendre de. Toujours un peu, la frontière n'est jamais très, très nette. Donc là, est-ce que c'est une ressource qu'il a utilisée en disant, en voyant comment l'ampleur que le truc prenait, mais en tous les cas, il est clair qu'il a joué dessus.
Et l'énigme sacrée est un best-seller qui...
Oui, c'est un essai qui est basé sur un documentaire qui a été fait par la BBC. Oui. Et donc, les auteurs de ce documentaire, on fait un bouquin qui s'appelle Holy Blood, Holy Grave, et traduit en français sous le titre L'énigme sacrée. Donc, il y a une suite, il y a toute une série. Et qui parle donc de l'énigme de Rennes-le-Château, qui n'apparaît pas dans la Da Vinci Code, mais du prieuré de Sion, de Plantard, en fait, toute cette histoire-là, c'est ça en fait. Dan Brown a tout simplement pris un truc dont il savait que ça avait très fort marché 20 ans avant. En 20 ans, il y a une nouvelle génération, les gens ont oublié. Et donc, rebelle.
Donc, c'est purement commercial.
Je ne sais pas, il avait fait plusieurs romans avant qui avaient eu un succès tout à fait mitigé. Donc, je ne pense pas qu'il ait prévu. Hein. Simplement, voilà, quoi. Il a. Je ne sais pas. Là, pour les raisons. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce genre de truc. D'abord, ce n'est pas prémédié pour une bonne et simple raison. C'est que même, lui s'était dit peut-être que ça va marcher et tout, mais certainement pas dans cette ampleur. Et puis il faut savoir que tous les éditeurs de la Place de Paris, tous, sauf la thèse, a refusé le manuscrit. Alors qu'on leur a fourni sous forme de manuscrit, avant qu'il paraisse aux États-Unis, il y a un moment où ils pouvaient le faire pour rien. C'est pour ça que, ils sont pas tous suicidés, mais on était presque à ça. Ils ont tous refusé la poule aux œufs d'or. Donc ils sont rapportés un peu en faisant des livres sur de la Vesticode.
Oui.
C'était
prévu
ou
est-ce
que ça allait avoir du
succès?
Non, au
départ, non. Une histoire comme ça?
Non, au départ, non.
C'est un livre à succès, tu vois.
Non, oui, mais une fois que vous l'avez vu, mais il faut savoir qu'au départ, il est paru aux États-Unis, il en avait fait d'autres. Donc aux États-Unis, le succès n'était absolument pas très prédit au départ, c'était pas clair. Et alors par contre, une fois qu'on voyait le succès aux États-Unis, on pouvait se dire peut-être que ça va marcher en France. Mais il y a des tas de cas où des succès américains ne marchent pas en France. Oui. Donc c'était pas, au départ c'était pas évident, mais tout le monde l'a...
Moi en fait, je crois que je l'avais acheté je l'ai lu en anglais d'abord, mais je l'ai lu avant de sortir en France.
Mais parce qu'il y a pendant un an, effectivement, on a vu qu'il n'était pas la liste des best-sellers aux États-Unis. Donc là, les gens ont commencé à se dire, on a fait peut-être une erreur. Voilà. Mais en France...
Mais pourquoi ils ont décidé de
quoi
de pas publier en fait
parce que pour eux, c'était un mauvais.
C'est juste ça. Ah non, mon père, il a vraiment pas lu, là.
C'est très mal écrit.
C'est...
Très très mal écrit, c'est-à-dire que vous êtes tous les chiens une journée, c'est bien, ça passe le temps.
Oui, oui,
c'est parfait.
Parce que c'est loin, mais
ça fait référence à des tas de trucs que tu connais un petit peu.
C'est pas marrant, Umberto Eco. Hein.
Non,
pas vraiment. Pas le pendule de Foucault. On est sur le même registre, mais c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas de nom d'Aro.
Non, mais le pendule de Foucault est très proche. On est vraiment dans l'idée du complot mondial et le même truc. Pour cacher la vérité avec les Templiers, tout ce qui
en suit. Oui, mais le pendule, en lisant le pendule de Foucault, j'ai jamais eu l'impression que Umberto Eco prétendait.
Ah non, Umberto Eco, justement, il a.
Il a pris ses distances.
Il a un plus loin, il a une étape supplémentaire. Lui, il traite un truc et une croyance générale.
Voilà. Et il a très nettement pris ses distances avec
ça. Oui, mais si vous arrivez, tant que vous n'arrivez pas à la fin, vous êtes dans des gens qui construisent un complot. Et donc, il est sur les mêmes ressources. Simplement, Dan Brown aurait été un personnage d'Umberto Eco. C'est un peu ça.
Mais c'est, j'aime bien cette idée.
Il y a beaucoup plus de choses d'Umberto Eco, c'est une espèce d'encyclopédie de lui.
Des références.
Ouais.
Ce qui fait que la plupart des gens n'ont pas lu la moitié.
Umberto Eco, c'est dommage, parce que c'est, même quand on comprend pas la moitié, c'est...
Ah, moi j'en sais.
Il y a des machins en latin partout.
Ce qui est génial, c'est
Baudelino. C'est en hébreu, en fait.
En hébreu.
Baudelino, tu l'as lu? Baudelino, vous l'avez lu? C'est très amusant parce que son personnage est un être un peu étonnant qui parle une langue bien à lui, mêlée d'italien, de vieil anglais, de vieux français, de latin, de cuisine. Ah. Et de temps en temps, Eco s'amuse à écrire dans cette langue bizarre.
Une espèce d'espéranto.
Une espèce d'espéranto, oui. C'est vraiment intéressant de voir comment Eco a construit une langue étonnante, à plus ou moins compréhensible par des gens qui ont un peu de culture en langue latine, en langue germanique. À partir de ses connaissances. Bon, on dérive totalement du sujet, ça n'a rien à voir.
Est-ce que, donc en fait, ce que raconte Dan Brown, si on reste sur le côté fiction, ça pourrait être une théorie du complot.
Oui, c'est clair qu'il y a un complot, oui. Dans le truc de Dan Brown, on cache quelque chose depuis longtemps, c'est le fondement de notre civilisation chrétienne. Mmh. C'est-à-dire que le Christ a une descendance. Donc, c'est-à-dire que toute l'histoire est à réécrire. Là, là, on est vraiment dans le complot.
J'aimais bien l'idée.
Oui. C'est l'Église, on est dans l'Église, a toujours attribué des complots, et puis l'Église elle-même a chassé pendant des centaines d'années des complots, le complot des sorcières et tout. Mm-hmm. L'Église s'est tout le temps battue contre le complot de Satan pour régner sur le monde. Donc là, on est au cœur des complots.
Donc,
là, c'est peut-être, c'est peut-être d'autant plus facile que là, il n'y a plus de documents, il n'y a plus de...
Mais il y a encore assez justement pour pouvoir... Ici, il y a la Bible, déjà on peut interpréter plein de trucs, ils passent leur temps à interpréter les différents...
Oui, et puis il y a les fameux évangiles apocryphes, ils existent ou pas?
Le quoi?
Les soi-disant manuscrits des mères mortes.
Ah oui, bien sûr, oui.
Ils existent?
Ah oui, ils existent, ils ont été découverts en 47, et ils font l'objet d'un déchiffrement peu à peu.
Et
des trucs ont été publiés déjà.
Oui.
Mais en fait... Le complot joue de deux manières sur l'interprétation. Soit alors, comme ici, je lis un livre ou je regarde un tableau et j'interprète donc, j'interprète d'une certaine manière des signes et je dis ça. Soit, le problème c'est le fait que des rationalistes qui sont censés ne pas interpréter mais voir des choses comme un bloc de vérité fassent des interprétations.
C'est ça le problème.
C'est ça, mais en fait,
le problème, c'est ça, c'est de voir un bloc de vérité.
Ils voient un bloc de vérité dans leurs interprétations.
Oui, ils disent, il y a une vérité vraie quelque part, et tous les autres sont dans l'erreur, et une partie ment.
Mais cette conviction oriente forcément leur mode de pensée.
Oui, mais ils pensent qu'à la base de la science, c'est ça. Ils pensent que la science, c'est la vérité. Ils ont oublié que la science, c'était l'incertitude.
Oui.
L'erreur, elle est là. L'erreur, s'il y a une erreur quelque part, elle est là. Elle est que dans le discours scientifique, là. La vulgate rationaliste, c'est l'idée de la certitude. Alors que la science, c'est plus le monde est scientifique, plus il est incertain, on voit bien.
C'est
exactement le contraire.
Ou on désenchante complètement les choses.
Oui, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que la science, c'est quoi? C'est qu'avant, on avait une société avec, en gros, des êtres humains, des machines, des dieux et tout ça. On a enlevé tous les êtres surhumains.
Voilà, ça c'est fait.
Bon, maintenant, il reste les hommes, les machines, et les machines sont devenues des médiateurs de tout un tas de nouveaux êtres qui sont des êtres non humains, les microbes, les étoiles, qui font partie de la société. On a une société qui est peuplée de tout un tas d'êtres nouveaux. Et donc forcément, toutes ces interactions sociales de nouveaux types entraîne des tas de tests au niveau de la société. Donc un peu d'incertitude, forcément. Et l'idée au départ de rationaliste, c'est de dire que ces êtres-là allaient non pas introduire de nouvelles expériences sociales, mais de la certitude. Que ça allait être, on a les microbes, c'est sûr, on a les étoiles. Donc tout allait être plus sûr qu'avant. C'est ça, l'erreur, elle est là.
C'est qu'ils
ont une espèce d'image de la société qui est très curieuse, qui est faite de certitude, alors qu'en fait, plus on est scientifique, plus on est dans les expériences de société nouvelle.
Oui.
Et donc l'erreur, elle est là. Le départ de tout ce qui va aboutir au théorie du complot, il est dans cette idée qu'il y a de la certitude. C'est ça.
Donc il touche par le doute en même temps.
Oui, mais le doute, c'est pour les autres, hein, pas pour eux.
Enfin, il
doute de douter de vos croyances. La science, elle, elle ne doute pas, elle sait. Et alors, ils sont encore plus, d'autant plus naïfs qu'ils sont persuadés, eux, d'être totalement en dehors de la croyance. Là, je viens de faire un livre sur Orson Welles, édition de 1938, sur les
narcissiques. Oui, oui.
Bon. Tout le monde connaît cette histoire de la panique qui s'est emparée des spectateurs, des accidents, les suicides et tout ça. Bon. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de suicide.
Pardon ?
Non, il n'y a pas eu tout ce qu'on raconte. Tout ça, c'est une rumeur rationaliste qui s'est construite à partir de l'émission. Et j'ai notamment des textes de rationalistes, et notamment d'un des plus grands d'entre eux qui s'appelle Richard Swann, le président de l'Union Sudiste, en 71, fait un texte sur le rationalisme. Et il dit, la différence entre les rationalistes et les autres, c'est que nous ne croyons pas à tout un tas de choses qui sont fausses, nous n'avons pas de présupposés, de préjugés, tout ce qui s'ensuit. Et comme exemple, qu'est-ce qui sort ? L'émission d'Orson Welles, il dit, vous voyez, tous ces pauvres gens qui ont cru à l'émission, qui se sont jetés par les fenêtres, et tout, etc., etc. Ils croyaient à des tas de trucs, et nous, on ne croyait pas à des tas de trucs. Non, ils ne croient pas à des tas de trucs, sauf qu'ils croient qu'il y a une panique alors qu'il n'y en a pas eu. Voilà. Ils croient que les gens sont des cons alors que ce ne sont pas des cons. C'est ça. La différence entre les rationalistes et les autres, c'est que les rationalistes ont plus de croyances que les autres. Parce qu'en plus d'avoir les croyances des autres, ils croient que les autres croient. Et ça, c'est le pire. Et c'est ça. Et donc, eux, ils sont persuadés qu'il y a de la vérité, de la certitude et tout, mais c'est le seul truc dont on sait que ça ne marche pas. C'est pas vrai. Et mes sens, c'est un enfant du rationalisme. Et c'est, comme il est en tout scientifique, il est pire que les autres.
D'accord.
Donc, moi, je pense que ça vient de là.
Et en fait, est-ce que c'est pas... Enfin, en fait, c'est qu'ils ont simplement une volonté de tout expliquer.
Une volonté de dire que le reste c'était de la croyance et nous on est enfin dans l'âge de la science, de la vérité. La science est associée à la vérité.
C'est-à-dire que pour eux il existe une seule vérité, ils refusent le fait que la réalité soit quelquefois trop complexe pour être appréhendée simplement par une personne.
C'est pas que ce soit trop complexe, c'est qu'ils pensent qu'ils ont les outils pour que cette complexité soit bien comprise.
Ils sont bien conscients. Ils refusent le fait qu'il y ait des limites à la science et que la science n'est qu'une modélisation, finalement.
Limite,
et qu'ils ne représentent pas tout enfin...
Non, ça c'est pas ça, parce que ça, ils vous diront tous, il y a des choses qu'on va
lire et tout. Non, mais eux, ils ne diront pas ça aussi, mais est-ce que c'est pas...
Si, enfin, les rationalistes sont les premiers à dire la science ne connaît pas tout et tout. C'est simplement que dans ce qu'elle connaît, il y a des certitudes. Et que la science est fondamentalement différente de tout ce qu'on a pu faire comme système de vérité sur Terre. Et qu'elle donne accès à la certitude alors que les autres donnent accès à des croyances.
Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur des faits.
Parce que, oui, mais ça... Là,
ils prétendent la science n'a pas accès au savoir parce qu'elle s'appuie sur des faits.
Oui, mais tout ce truc-là, c'est que la science, c'est quoi la science ? C'est est-ce que c'est un truc qui nous permet justement d'avoir accès à des faits ou est-ce que c'est quelque chose qui nous permet de construire une société en y mêlant tout un tas de choses qu'il n'y avait pas dans la société avant ? Je pense que c'est ça la science.
Mm-hmm.
Ce que font les scientifiques, c'est qu'ils font de nouvelles expériences, ils créent une société différente de celle qu'il y avait.
Vous avouerez quand même que la plupart des scientifiques ne sont absolument pas conscients du fait qu'ils sont en train de créer une nouvelle société. Donc,
À la fois, c'est vrai et faux, parce qu'ils savent bien qu'une grosse partie de leur travail, c'est de négocier des tas de choses constamment, tout le temps. Donc, c'est d'être présent dans la société.
Oui, d'être présent, d'accord, mais que leurs découvertes vont intégrer des nouveaux acteurs dans la société. Ça, ils n'y pensent pas forcément.
Ben, si, quand ils créent les OGM, tout ça, ils voient bien les effets tout de suite. Toutes les recherches en génétique, en astronomie, tout ça, tout de suite, ça introduit des trucs qui créent des controverses sociales et tout le temps. On voit bien que ils font de la société, oui, ils font du social constamment. Ils font du social avec autre chose, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui.
C'est que la plupart, un homme politique, oui, bon, il fait du social avec des voix dans des élections, un truc, c'est le truc le plus tarte qu'on connaisse. Mais Mais les scientifiques, ils font du social avec tout un tas de trucs qui n'étaient pas prévus pour aller dans la société. Comme la religion, autrefois, construisait la société avec des anges, des démons, des trucs comme ça. Donc, bien sûr, il y a tout le discours qui consiste à dire la science et la recherche, enfin bon, tout le truc qu'on connaît. On a tout le temps la télé, des choses comme ça. Mais je pense qu'un scientifique qui fait son travail tous les jours, et justement un scientifique qui vient parler à la télé, c'est plus les mêmes personnes. Ils ne font pas la même chose.
Ils ne font pas le même travail.
Quand il parle de ce qu'il fait, il nous raconte rarement ce qu'il fait. Il va d'abord lire les magazines de vulgarisation pour dire « Ah bon, je fais ça. Bon. » Et après, il vient à la télé.
D'accord. Il vient nous raconter l'histoire de ce qu'il fait.
Oui, mais la plupart des scientifiques d'ailleurs, ils sont spécialisés sur tout petit domaine, et pour tout le reste, ils lisent les magazines.
Ah oui, je pense que c'est très clair.
Donc voilà. Donc déjà, tout le truc qu'il y a entre savant et ignorant, ça n'existe pas.
Attendez, j'étais... Pensez à autre chose. Donc en fait, la puissance de la science pour les rationalistes vient de ce que nous, on entend tous les jours à propos de la science.
La vérité.
La vérité. Tout simplement.
C'est un truc qui nous permet d'accéder à la vérité et à la certitude.
Mais comment?
Parce qu'une expérience scientifique, ça débouche sur la vérité et la certitude. Alors que
les autres... réponses.
Oui, mais tout le système d'expérience, de preuves, d'hypothèses, de débats scientifiques, ça nous permet d'avoir à un moment une certitude.
Ça, c'est un axiome. Ça, c'est un postulat.
C'est un postulat.
Oui, mais chez les rationalistes, vous ne trouverez pas autre chose. Hein.
Non.
Ils ne vont pas vous dire, on crée de l'incertitude.
Oui, d'accord. Oui, donc...
Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais c'est parce que je pense qu'il faut qu'on aborde un peu peut-être les...
Oui, mais c'est vrai sur le sur-certitude, parce que...
D'accord.
Moi,
c'était quoi le problème ?
Je vous ai pas suivi du tout sur... Enfin... Que bon... Ah, je sais pas, je suis peut-être un peu... Je suis peut-être un peu rationaliste, parce que pour moi, la science, ça produit pas des certitudes, mais ça permet de... modéliser des choses, on peut voir les effets, enfin...
Oui.
La science produit des incertitudes, c'est sa connexion avec la société qui produit des incertitudes.
Le travail du scientifique, quand il étudie les étoiles, la biologie, des trucs comme ça, bon, il fait tout un tas d'expériences et tout. Alors bien sûr qu'on va, on agrandit notre savoir, mais tout ça, ça fait qu'on se lance dans de nouvelles expériences.